me mettre le micro, je crois.
Oui.
Formidable. Ah, c'est celui-là qu'on me met aujourd'hui. Oh, il y a des nouveautés alors. C'est fantastique. Wow, le beau micro professionnel.
T'entendras bon. Ça te gêne pas trop, ça.
Pardon.
Pour tes notes, ça va?
Oui, ça va, ça va. Merci. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Et il y a 8 ans aujourd'hui. Notre frère T.L. Osborne est retourné dans la gloire vers le Seigneur Jésus et il a rejoint sa femme, son fils, tous les gens de sa famille et des milliers, des milliers, des milliers de chrétiens qu'il a lui-même emmenés à Jésus-Christ de par le monde. C'était un homme de Dieu remarquable. J'ai eu avec mon épouse l'immense privilège de le connaître, les frères et sœurs de la communauté aussi, puisqu'il est venu souvent chez nous, d'abord au Perreux, à Sarcelles, au Château, et on a bénéficié de son enseignement, et il nous a vraiment bénis. Et en fait, mon ministère ne serait pas ce qu'il est si je n'avais pas rencontré cet homme de Dieu. C'est tout à fait particulier. Il n'y en a plus des comme ça maintenant. Maintenant que Jésus va revenir, les choses s'arrêtent. Mais bon, je suis content aussi de savoir quand même que sa fille continue le ministère et elle a aussi encore beaucoup de guérisons, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est des familles comme ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, alors j'ai mis quelques photos sur Révélation Bible Facebook, ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez aller les voir. J'ai mis, je crois, presque une trentaine de photos et de diverses choses que nous avons vécues, en particulier quand nous étions chez eux, là-bas à Tulsa, au Oklahoma, pendant plus d'un mois, où nous avons eu le privilège, mon épouse et moi, d'être enseignés 8 heures par jour, en tête à tête avec lui dans son bureau. C'était vraiment très précieux. En fait, là, on a appris beaucoup de choses sur la parole de Dieu écrite. Et ce matin, je vais vous parler de cela, puisque nous en sommes à étudier l'épée de l'esprit ce matin. Je prends la Bible et je lis Éphésiens chapitre 6. C'est la dernière prédication sur les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, où il est écrit verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut, ça on a vu dimanche passé, et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Seigneur, je te prie de mettre ta bénédiction sur ce que je vais dire et que mes frères et sœurs se saisissent de ces vérités pour les vivre avec puissance dans leur vie de tous les jours au nom de Jésus jusqu'à ton retour. Amen. Alors l'épée de l'esprit, c'est notre arme principale. C'est l'arme des vrais enfants de Dieu. C'est celle qui nous permet de nous attaquer aux puissances des ténèbres. Jésus, il est notre exemple en cela. Chaque fois que Satan l'a attaqué, il a riposté avec l'autorité de la parole écrite. Pourtant, il était la parole faite chair. Il aurait pu très bien lui-même dire des choses. Non, il s'est servi de la parole écrite pour nous montrer comment nous devons faire. On va lire ça dans Matthieu chapitre 4. Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tu m'étonnes. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous voyez, Satan essaie de le faire douter. Mais est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La Bible, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, encore une fois, il met en doute, vous voyez, il essaie de vous faire douter, vous êtes enfant de Dieu. Jette-toi en bas, en effet, il est écrit, vous voyez, le diable, il connaît les Écritures, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan, car en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et lui seul que tu serviras. » Amen. Alors le diable laissa, et voici que des anges approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Nous aussi, nous devons nous servir de cette parole écrite, la parole de Dieu écrite, comme principale arme contre tout ce qui persiste à nous manipuler, à manipuler le monde, à s'opposer aux vrais disciples de Jésus-Christ. Alors, vous avez des tas de chrétiens qui me disent « Oui, mais Dieu me parle, Dieu me... » La parole écrite, Jésus s'est servi de la parole écrite pour lutter contre le diable. Vous êtes plus fort et plus intelligent que Jésus, plus spirituel que Jésus. C'est vous qui voyez. Le diable rugit comme un lion, cherchant toujours à dévorer, à nous dévorer. On trouve ça dans 1 Pierre 5,8. Alors vous, n'oubliez pas que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre des gens. Les chrétiens sont eux-mêmes entre eux manipulés par des petits démons sans envergure et ils sont pleins de malentendus et tout ça, ça devient des conflits majeurs, ça crée des divisions. L'invisibilité de l'ennemi rend les attaques encore plus insidieuses, mais bénis soient ceux qui sont armés de l'épée de l'esprit, de la parole écrite de Dieu, la parole écrite de Dieu. Ils peuvent tenir ferme, ceux-là, contre les mensonges que le diable dit au travers des gens et même au travers de certains soi-disant frères et sœurs ou alors des frères et sœurs mal affermis, pas très nets, un peu charnels. Les armes que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, ces derniers dimanches, sont des armes surtout défensives et des armes pour se protéger. L'épée de l'esprit, c'est notre arme principale d'attaque contre le diable. Bon, elle est aussi une arme défensive, on parle coups, mais c'est une arme offensive. Hein, tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, et il y avait une petite fille qui était là, elle m'a vu avec cette grande épée, j'ai dit, c'est pour crever le bidou des gens pas gentils. Alors elle dit, tu vas crever mon bidou? J'ai dit, mais non, pas crever ton bidou. C'est impressionnant une épée, hein, une vraie épée, je veux dire. Le diable ne peut pas prévaloir contre nous lorsque nous lui résistons par l'autorité de Christ avec l'arme divinement désignée par Dieu comme étant l'épée de l'esprit. Vous pouvez dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que vous voulez, mais vous devez utiliser l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait. Et le diable le laissa tranquille. C'est comme ça que vous devez faire si vous voulez que le diable vous lâche. Le mot « épée » a été choisi par les traducteurs, mais en réalité, il y a deux mots pour dire « épée ». Il y a le mot « machira », c'est une petite épée, comme une dague, si vous voulez. Et le mot « ronfira », qui désigne une épée plus grande. Hein. Là, la photo que vous avez avec mon épée, c'est plutôt une ronfira. Ça peut même être une lance. Dans la signification du mot. Alors, le mot machira, c'est une arme utilisée dans une lutte au corps à corps. Et ce combat-là, ça a lieu dans la tête. Hein, je vous ai parlé l'autre jour du casque du salut. Ça se passe à la tête, dans les pensées. C'est un combat spirituel. L'épée de l'esprit, la parole écrite de Dieu, est notre arme principale. Comme le dit Hébreux 4, 12, je vais vous le lire parce que j'aime toujours montrer que ce que je dis c'est dans la Bible, c'est écrit, c'est tout ce que je vous dis là c'est des armes. Hébreux 4, 12, voilà ce qu'il est dit. En effet, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant Dieu, devant lui. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, écrite, puisque c'est de celle-là dont Jésus s'est servi, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Vous ne voulez pas vous en servir? Vous ne voulez pas lire la Bible, la méditer, apprendre à l'utiliser? Parce que le maniement des armes, ce n'est pas un truc qui s'improvise. Il faut apprendre. Regardez l'histoire des chevaliers, ils apprenaient à utiliser les armes. L'épée de l'esprit. Le texte grec différencie les deux termes. Hébreux 4 et Hébreux 6 parlent de la parole de Dieu, mais le mot traduit par parole n'est pas le même. Dans Hébreux 4, c'est le mot logos, et dans Éphésiens 6, c'est le mot rhéma. Tout ça, ça a son importance. Le terme logos met l'accent sur la parole dans son essence. Ça veut dire, nous devons utiliser la parole écrite sachant qu'elle est divine. Elle est divine, elle est vivante. Quand vous utilisez un texte biblique à bon escient contre l'ennemi, cette parole que vous utilisez, elle est vivante, de la vie divine, de la vie de Dieu. Pourquoi vous en privez? Le terme rhéma met l'accent sur l'utilisation active de cette parole écrite. La Bible nous enseigne de prendre l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour l'utiliser activement. Pas simplement pour la mémoriser. Pour pouvoir l'utiliser activement, il ne suffit pas de la connaître. Et bien sûr, il faut commencer par la connaître, il faut savoir l'appliquer. Quand vous voyez l'ennemi qui attaque comme ça, vous savez comment il faut faire. Vous savez quel verset utiliser, quel texte utiliser. Il faut savoir l'appliquer et lui permettre de pénétrer dans les forteresses de l'ennemi qui cherche à établir des trucs faux dans votre pensée. Utilisez la parole écrite à bon escient, comme Jésus au désert, on l'a lu tout à l'heure. Ce qui s'est passé au désert entre Jésus et le diable, c'est le modèle parfait qui nous est donné pour la victoire contre l'ennemi, pour votre victoire contre l'ennemi. C'est le modèle parfait. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il n'y a pas plus grand que Jésus, et Jésus a fait comme ça. Satan a usurpé l'autorité qui avait été accordée à Adam et Ève au jardin. Il leur a dit, mais est-ce que tu as vraiment dit? Vous voyez, il s'attaque sur ce que Dieu dit. Et Ève a dit, non, c'est pas tout à fait ça, il a dit que... Puis ils se sont mis à discuter, puis finalement, il s'est fait avoir. On ne discute pas avec le diable, on lui fout l'épée dans la tronche. on le massacre au nom de Jésus, avec des paroles appropriées. On ne discute pas. Satan a usurpé l'autorité qui avait été accordée à Adam et Ève, et là, au désert, Jésus se tient devant cet usurpateur, dans la même limitation que connaissaient Adam et Ève. Il nous est dit que Jésus est le second Adam. Le diable avait vu la vulnérabilité de Adam et Ève, et quand il a vu Jésus, il s'est dit, celui-là, je vais l'avoir la même chose. Le diable avait méprisé Adam et Ève quand il avait appris qu'ils avaient été nommés gardiens du jardin d'Éden. Et là, au désert, Jésus aurait pu bannir Satan comme ça, d'un clin de... Avec un seul mot, il aurait pu l'envoyer dans les temps de feu, puis ça aurait été terminé. Mais si Jésus avait fait ça, il aurait gâché tout espoir de rédemption pour la race humaine, parce qu'il n'y aurait pas eu de sacrifice, etc., etc. Donc il a fallu que Jésus gagne cette bataille en tant que simple homme. Vous voyez? Et comment est-ce qu'il a fait? Par la parole écrite. Il s'est servi de la parole écrite, ce qui est écrit dans les Écritures, dans la Bible. Il était lui-même la parole incarnée, mais il n'a pas utilisé son pouvoir divin. Il a utilisé l'arme de la parole écrite. Alors arrêtez de me dire « je suis rempli du Saint-Esprit, je peux aller au combat ». Non ! Jésus était encore bien plus rempli du Saint-Esprit, il était lui-même Dieu. Mais il a utilisé la parole écrite pour vous montrer comment il faut faire. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ce que je vous dis, ben faites pas ce que je vous dis. Ça m'est égal, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Moi, je vous annonce ces choses afin que vous soyez des vainqueurs. Il a dit à Satan, non, parce qu'il est écrit. Chaque fois que le diable dit, non, c'est écrit. Comme ça, comme ça, comme ça. Et il a à chaque fois plongé cette épée, ces écritures, dans le cœur des ruses du diable. Jésus a lutté en utilisant la parole écrite de Dieu. Satan, alors, il a essayé de tromper Jésus en citant des paroles écrites de Dieu aussi. Vous voyez que le diable, il connaît la Bible. Si vous ne la connaissez pas, lui, le diable, il la connaît. Hein? Matthieu 4, 6. Il dit, oui, mais le diable, il dit, mais il est écrit, gna 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 gna. Le diable, il connaît donc la parole écrite de Dieu, mais il ne sait pas l'utiliser à bon escient. C'est ça son défaut. Est-ce que vous connaissez la parole écrite de Dieu? Est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Ou est-ce que vous êtes comme le diable, utilisant la parole de Dieu pour tromper? Il y en a qui le font, hein? Pour voler, pour détruire l'espérance des gens. Combien de pasteurs et de chrétiens font ça? Ils prennent des versets bibliques pour massacrer les chrétiens, pour les tenir soumis, pour les tenir en dessous, pour les dominer, pour les voler, pour les détrousser. Vous croyez que Dieu va les laisser faire ça comme ça longtemps? Non. Combien de soi-disant pasteurs et de soi-disant chrétiens font ça? Au jardin d'Éden, la première bataille a été perdue par Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se soumettre à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu ne feras pas ça. Ils ont discuté, puis finalement ils l'ont fait. Bon, ben voilà. Ils ont voulu affirmer leur indépendance. Ben, vous voyez le résultat. Et la bataille entre Jésus et Satan a été gagnée parce que Jésus s'est servi de la parole écrite de Dieu qui est l'épée de l'esprit. On n'en sort pas. Et nous? Eh bien, nous avons à être vigilants dans notre famille, dans l'église locale, au travail, face au gouvernement aussi, parce que partout, en première ligne, se trouvent toujours des pensées et des motivations du cœur souillé de l'homme. Et nous sommes de chair et nous sommes vulnérables. On va lire 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, on vit dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Je ne fais pas de politique, mais M. Darmanin, j'arrive pas à le dire son nom, a pris position au sujet des islamistes en disant il faut qu'ils écrivent et qu'ils reconnaissent que la loi de la République est plus haute que la parole de Dieu. Il a raison parce que leur Coran, ça n'est pas la parole de Dieu. Et la loi de la République est au-dessus de la loi du Coran. Si vous mettez la loi du Coran, c'est la lapidation pour les femmes, c'est des... Enfin, vous connaissez. Bon, mais le problème, c'est qu'il a ajouté, et nous avons aussi un problème avec les évangéliques. Et dans très peu de temps, vous allez voir, il va... Les pasteurs vont recevoir une lettre qu'ils vont devoir signer comme quoi ils reconnaissent que la loi de la République est au-dessus de la parole de Dieu. Tout ce qui s'élève contre Dieu. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Alors, la loi de la République, on n'est pas contre. Même les lois qui sont iniques, il y a des lois qui sont injustes. Par exemple, excusez-moi, je suis... Mais, bon, le mariage pour tous, je ne peux pas être contre. Mais je ne suis pas obligé par la loi de la République de me marier avec un homme, ni de bénir un mariage entre deux femmes ou deux hommes. Je ne suis pas obligé de le faire. La loi de la République n'est pas... comment dire, au-dessus de la parole de Dieu dans ce sens-là. On me laisse la liberté. Oui ou non? Mais parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la Bible. Et on ne va pas contre la Bible. Mais il faut faire attention, il faut être vigilant. Parce que toujours, dans tout, il se trouve des pensées et des motivations venues du cœur de l'homme, d'un cœur, de cœur souillé, qui font des amalgames, qui mélangent tout. Alors nous sommes de la chair, nous sommes vulnérables, on vient de le voir, et je connais beaucoup de chrétiens qui ont une connaissance impressionnante des Écritures, mais qui demeurent toujours intellectuels et cloisonnés dans leurs petites histoires, leurs petits machins, qui les rendent, qui les tiennent dans l'échec, même s'ils connaissent l'Écriture. 2 Corinthiens 4:4 nous dit que Satan est le dieu de ce monde. Alors, vous allez me dire, mais alors c'est pas Dieu le dieu de ce monde? Ben non, c'est le diable. 2 Corinthiens 4:4. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si la bonne nouvelle que nous prêchons est encore voilée, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Il a aveuglé l'esprit des non-croyants et ainsi ils ne peuvent pas voir la lumière de l'évangile de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Mais en tant que Dieu de ce monde, il arrive aussi à aveugler les pensées des croyants en distordant leur système de valeurs. N'est-ce pas vrai? Et il les rend esclaves du système de ce monde, qui est opposé au plan de Dieu. Et pourtant, Jésus a dit aux siens, dans Matthieu 6, 33, on trouve, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Je vais juste dire une chose, je ne vais pas dire le nom de la personne. J'ai prêché l'autre jour que nous devons donner la dîme et les offrandes. Une personne m'a écrit en me disant « Priez pour moi parce que j'ai des problèmes avec ma banque. » Ben non, je ne prie pas. Pourquoi? Parce que cette personne ne donne jamais un centime à l'œuvre de Dieu. Qu'elle s'occupe premièrement du royaume de Dieu et de sa justice en faisant ce qui est écrit, et alors Dieu lui donnera tout par-dessus, mais moi je ne prie pas pour quelqu'un qui ne donne pas. Vous allez me dire, alors tu pries seulement si on donne de l'argent? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que cette personne a besoin d'apprendre à faire ce que la Bible dit, plutôt que de compter sur des prières magiques du pasteur Janton qui vont la sortir de ses problèmes bancaires. Ce qu'elle doit faire, c'est utiliser la parole écrite et faire ce qui est dit dans la Bible, et alors après, tout lui sera donné par-dessus. Prends ça, ma sœur. Je ne suis pas en train de te gronder, je suis en train de t'apprendre des choses pour que tu agisses spirituellement. Ce n'est pas à moi de prier spirituellement pour toi qui n'es pas spirituel. Je suis désolé. Il faut que tu deviennes une femme spirituelle. J'ai dit dans cette prédication, juste avant que tu m'écrives ça, ma sœur, j'ai dit même un centime. Ne dis pas que tu ne peux pas donner un centime. Tu mets un centime dans une enveloppe, tu l'envoies à notre association, c'est faisable. Tu verras comment Dieu va te bénir. Mais fais-le! Ah, mais un centime, je peux pas. Bon, ben reste dans tes problèmes. Michel, tu es dur. Non, je suis pas dur. Je vous dis la vérité. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on persécutait les prophètes autrefois? Parce qu'ils disaient la vérité. On les aimait pas parce qu'ils disaient ce qui est vrai. Je suis pas là pour vous chatouiller derrière les oreilles et vous faire guili-guili à vos ailes d'ange. Non, 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 non. Je suis là pour vous dire la vérité. Vous en voulez pas, mais vous n'êtes pas obligé de venir m'écouter, hein. Je n'ai pas voulu dire, mais écoutez. Alors, maniez donc l'épée de l'esprit pour posséder la perspective biblique de ce monde. Savoir comment il fonctionne. Si vous voulez brandir l'épée de l'esprit, vous devez avoir une conception biblique de ce monde. des lois de ce monde, de commencer dans ce monde. Et nous sommes des pèlerins étrangers, on l'a chanté tout à l'heure, on est pèlerins étrangers avec les lois de Dieu sur cette terre, afin que, en faisant ce qui nous est dit par Dieu, on ait tout ce dont on a besoin, et même au-delà, dans ce monde. Vous devez voir ce monde à travers la parole de Dieu, et non pas tel que le monde et les médias vous le montrent. Mon Dieu. Prenons l'exemple de cette pandémie, puisqu'on on est là-dedans. Il y a tous les avis. Moi, je vais vous dire ce que la parole de Dieu dit. Tout ça s'est mis en place dans un seul but. L'établissement de l'homme providentiel, l'Antichrist, qui va se révéler comme un sauveur. Michel, t'es un complotiste ? Non. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Vous n'en voulez pas ? Bah, tant pis. Continuez à penser n'importe quoi. 2 Thessaloniciens 2, 1, 10. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il va revenir, et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, ou par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Il y avait déjà des gens qui faisaient des faux comme ça, hein. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Alors, l'apostasie, elle est arrivée. Elle est là, maintenant. Taïd écrivait ça il y a 2000 ans, mais maintenant, elle est là, l'apostasie. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, vous achetez un dictionnaire et vous regardez. Qu'est-ce que ça signifie, apostasie? Il faut d'abord que l'apostasie arrive et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Comme Dieu a envoyé son fils Jésus, le diable va envoyer le fils de la perdition, c'est-à-dire il va envoyer son fils, un homme qui sera formidable, qui fera des miracles, qui arrangera tous les problèmes, qui réglera le truc de la pandémie, qui réglera tous les problèmes de famine, qui réglera les problèmes de pauvreté, qui réglera les problèmes de maladie. Ça va être génial! Ça sera le fils de la perdition. Il sera l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va aller jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Vous savez ce qu'il retient, l'Antichrist, en ce moment? Vous ne savez pas? Ben, je ne vous le dirai pas. Vous n'avez qu'à lire votre Bible. Lisez votre Bible. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Bon, je vais vous le dire, qui c'est qui le retient? C'est nous! C'est les véritables chrétiens enfants de Dieu. On est en train de retenir la venue de l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'on prie. Et parce qu'on se manifeste. Mais quand on sera parti, ben il viendra. Il n'y aura plus de résistance contre lui. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous ne prenez pas plaisir à ce qui est juste, à la parole de Dieu, eh bien Dieu vous envoie un esprit d'égarement, afin que vous croyez encore moins, et que vous soyez condamnés. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est pas contre moi qu'il faut aller, vous êtes contre la Bible, là, si vous êtes contre ce que je vous dis. Et puis, ce n'est pas une interprétation de la Bible. Je vous cite les Écritures, elles n'ont pas besoin d'interprétation, elles sont claires. Elles sont claires. Toutes les séductions de l'injustice. Vous ne trouvez pas qu'en ce moment, il y a une séduction de l'injustice flagrante? Vous trouvez que tout va bien, Madame la Marquise? Vous savez combien de paysans qui se sont suicidés cette année? Allez regarder. Rien que les paysans, je ne parle pas des restaurateurs. Ce pauvre petit restaurateur, sa famille, il y avait l'anniversaire de quelqu'un. Allez, on va à l'anniversaire, ça va nous changer les idées. Et le mari dit non, non, je reste là. Il est resté dans son bistrot, fermé, bien sûr. Et quand la famille est revenue de l'anniversaire, ils ont trouvé ce restaurateur pendu au milieu de son bistrot. Vous lisez ces choses, vous dites, oh, c'est terrible quand même. Le monde est séduit par un esprit de peur qui vient d'une séduction injuste. Vous ne me croyez pas? Ça m'est complètement égal. Moi, je crois ce que la Bible dit et je m'attends au retour de Jésus qui va cramer tous les suppôts de Satan. Et j'applaudirai. Tout ça s'est mis, s'est préparé, il y a un but, c'est l'établissement de l'homme providentiel, de l'antichrist dont il est parlé. Le monde l'adorera, toute religion confondue, mais bien sûr. Vous savez, au Burkina Faso, on voit des mosquées partout. Mais quand vous parlez aux gens, ce n'est pas des musulmans. Ils sont devenus musulmans, pourquoi? Parce que Kadhafi leur a donné plein de pognon. Il a ouvert des écoles, il a ouvert des hôpitaux, il a ouvert des... Alors ils ont dit, bah, pour pouvoir y aller dans ces écoles et dans ces hôpitaux, bah, il faut être musulman. Donc ils ont vite devenu musulmans. Ben, avec l'antichrist, ça sera la même chose. Il réglera tous vos problèmes et vous direz, ah, oh, c'est génial. Puis vous allez le suivre, vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il est bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Même des chrétiens l'adoreront. C'est pas sorti de mon esprit de complotiste, je suis pas complotiste. Ça sort des Écritures, de l'épée de l'esprit. C'est ce que la parole écrite de Dieu annonce, mais il y a encore des chrétiens qui ne se servent pas de la parole écrite avec discernement. Ils croient que Jésus revient bientôt, ils disent tous « Amen, Jésus revient bientôt, Alléluia », mais en même temps, ils croient que nous vivons dans ce qui est annoncé dans Apocalypse 3, 1, 6. Allez le lire, vous verrez. Ben, c'est faux, ils ont tort. Non, monsieur, on n'est pas dans ce qui est annoncé dans Apocalypse 3, 1, 6, ça c'était avant. Ça, c'était pour l'époque qui allait de 1520 à 1750. C'était l'époque de la réforme avec Martin Luther, Calvin et tous les autres. C'était cette époque-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la réforme. C'est le temps du rétablissement de toutes choses. Le mot réforme ne signifie pas rétablissement. Depuis quand le mot réforme signifie rétablissement ? Apprenez votre langue, le français, allez regarder dans un dictionnaire, ça ne veut pas dire la même chose. Nous sommes à l'époque du renouvellement de toutes choses, prophétisé dans Actes 3, verset 21, et c'est ça que nous vivons. Dieu est en train de rétablir toutes choses, son Église telle qu'elle était au commencement. Et nous sommes juste avant le retour de Jésus, nous sommes en train de vivre la prophétie qui est écrite dans Apocalypse 3, 14 à 22. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est ça. Et aussi Apocalypse 6, versets 7 et 8. C'est ça qui concerne notre époque. Alors, tous ceux qui viennent vous dire le contraire, c'est des gens qui connaissent les Écritures, mais qui ne l'utilisent pas à bon escient. Qui ne savent pas. Ils savent dire, ah ben tiens, le ciel est rouge, demain il fera beau. Ils savent reconnaître ces signes-là, mais les signes de la parole, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que l'Église, que l'épée de l'Esprit, ils ne savent pas comment s'en servir de façon efficace. Dans cette prophétie d'Apocalypse 3, 14, 22, qui décrit notre époque, il est dit que ces chrétiens-là sont misérables, aveugles, pauvres et nus, et qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont nus, ils ne savent même pas qu'ils sont pauvres. Ils disent, on s'est enrichi. Ah ouais, ça, ils ont des églises géantes. Ils voient bien que tout va mal. Mais frappés d'aveuglement par des théologiens qui ne sont même pas nés de nouveau, et par leur orgueil, et par les médias, ils refusent de oindre leurs yeux avec un colic, avec un colire pour y voir clair. Ça, c'est aussi dans Apocalypse 3:18, dans ce qui concerne notre époque. Jésus dit, mais achetez un collier pour nettoyer vos yeux, pour voir clair. Ils ne voient pas clair. Ils regardent BFM TV. Puis ceux qui sont un petit peu plus malins, ils vont regarder YouTube. Un gars, un boubou, j'ai entendu un grand... Il n'est pas médecin, mais il a dit... Pardon, je suis un peu moqueur. Mais Jésus aussi, il dit, ah bon, ben moi non plus, je ne vous dirai pas. Ils ont une lampe, mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Donc leur lampe, elle ne sert à rien du tout. Jésus revient, ils ne seront pas prêts. Ils chercheront de l'huile. Ah, il n'y a pas d'huile. Ben, qu'ils viennent frapper ici pour qu'on leur donne de l'huile. Je leur dirais, non, foutez le camp. Je ne leur en donnerai pas. C'est trop tard. Je vous la donne maintenant, l'huile. Quand Jésus reviendra, vous viendrez frapper à la porte en disant, on peut venir. Non. C'est devenu Michel, t'es cruel. Non, c'est Jésus qui dit qu'il faut faire comme ça. Jésus dit que quand les vierges folles viendront pour nous réclamer une part d'huile que nous avons en réserve, il faudra leur dire non. Ben, je leur dirai non. Sans aucun état d'âme, sans aucun sentiment, sans aucune tristesse. Vous croyez que Dieu était triste et qu'il a pleuré en voyant les gens périr dans le déluge? Non. Non. Ces gens-là n'avaient pas écouté Noé. Tant qu'ils pourraient. Vous n'avez qu'à écouter. Dieu dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis un jour, c'est fini. Il agit, il finit par agir en faisant ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et sa volonté est de vous sauver de tout ce qui est mauvais, mais il ne va pas vous sauver lui tout seul. Il veut que vous participiez à la lutte avec l'épée de l'esprit qui est la parole écrite de Dieu. Ensuite arrivera le moment où notre combat sera terminé, où on partira à sa rencontre, et la Bible dit, Noé, au temps de Noé, le monde était détruit par l'eau, mais à ce moment-là, le monde sera détruit par le feu, ça sentira le cochon grillé. Moi, je pleurerai pas, hein. Tous ces gens rebelles, tous ces gens religieux qui se fichent de nous, tous ces gens qui blasphèment, tous ces gens qui insultent Dieu. Il y a encore eu un tremblement de terre au Japon dernièrement. Mais si vous voyez les commentaires, mais l'homme est devenu dégénéré. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, mais ils disent des horreurs. Des horreurs. C'est effrayant. C'est effrayant. Oh non, non, je ne pleurerai pas ce jour-là. Je me réjouirai avec mon Seigneur. Et puis on reviendra après pour régner pendant 1000 ans. Et puis on mettra de l'ordre. Jésus dit, je reviendrai avec un sceptre de fer. C'est-à-dire que ça va chauffer. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un de mon seul pasteur qui prêche avec des pantoufles. Mais c'est du 43. Eh bien, quand je reviendrai avec Jésus pour régner, et bien avec tous les vrais chrétiens qui ont été fidèles, ben ce 43 glorifié, ils se pondront là où il faut, sans aucun état d'âme. Obéissez maintenant, mettez-vous en règle maintenant, utilisez l'épée de l'esprit maintenant, lisez la parole de Dieu, apprenez à vous en servir maintenant, avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te demande de bénir ces paroles qui sont un peu dures, mais ils ont besoin d'être secoués. Je te demande de les secouer afin qu'ils t'obéissent, Jésus. Amen. Au revoir.